Donc du coup, pour présenter un petit peu ce livre, donc La Martyre du Coquelicot, c'est le cinquième roman de Sarah Haïla, qui est donc une écrivaine et une journaliste algérienne, qui avait écrit trois romans auparavant en arabe, le premier étant publié en 2004. Et du coup, La Martyre du Coquelicot, c'est son cinquième. Avant, elle avait écrit Virgule en trombe, que peut-être vous avez vu passer, que Libertalia a réédité en France en novembre dernier, je sais pas à peu près. Voilà. Et donc, La Martyre du Coquelicot, c'est le cinquième, qui est paru en Algérie en 2016. Voilà, ouais. Et que nous, on a réédité une première fois en France l'année dernière, en mars. Et que là, on vient de faire une nouvelle édition au mois dernier. Et donc c'est un livre que nous on a découvert un peu par hasard au fur et à mesure de nos lectures qu'on avait de bouquins qui venaient d'auteurs et d'autrices algériens et algériennes. Et donc on a été pas mal bousculés aussi par cette littérature-là, parce que c'était c'est une écriture assez particulière, assez puissante. Et puis il y avait un équilibre un peu entre à la fois une forme très poétique, très... une langue très assez puissante, assez forte, et puis un sujet assez chargé aussi, puisqu'on est sur un roman qui en fait raconte une révolte qui va devenir une révolution, en fait une révolte anarchiste dans un endroit dont on ne sait pas où il est, dans un espace et un moment en fait sur lequel on n'a pas d'informations, même si les références nous amènent assez clairement dans un espace qui touche à la Kabylie, et il y a des endroits qui sont ceux des... En fait, la Kabylie, mais aussi par exemple le Sahara, enfin voilà, tout, des endroits dans lesquels on trouvera les peuples imaziren qu'on appelait berbères en France, mais bref. Et on pourrait vous donner un petit peu plus d'informations sur cet ancrage-là un petit peu plus tard. Non, c'est vrai qu'on voulait commencer juste par présenter un petit peu le bouquin dans la lecture pour qu'on puisse avoir une petite idée de quoi ça parle quand même, parce que c'est pas forcément une évidence au premier abord. Et
c'est juste peut-être sur l'esthétique qui est assez particulière, vraiment pas confortable comme lecture. C'est une volonté un peu de présenter une vision qui n'est pas romantique de la révolution et des révoltes anarchistes. C'est assez fort. C'est assez dense, il y a une violence qui est latente, aussi bien dans l'écriture que dans ce qui est raconté, que les personnages subissent et portent aussi parfois, donc c'est assez malaisant et c'est volontaire.
Voilà. Oui, et en même temps c'est aussi très charnel, c'est très sensuel aussi, enfin, y a aussi le rapport à la terre, le rapport au corps qui est très présent et qui font aussi pleinement partie de cette révolution, qui a aussi quelque chose d'organique. Et donc c'est aussi un roman qui a plusieurs voix, plusieurs figures, plusieurs personnages qui ne sont pas toujours très très définis, mais dont on comprend au fur et à mesure qu'on est dans différents espaces. Du coup, on est à un moment donné en ville, après on est aussi dans le Sahara, dans le désert, dans le maquis, en prison aussi. Voilà, on est dans plusieurs espaces, dans des manifestations parfois pacifiques, parfois ouais. Beaucoup plus violentes, beaucoup plus radicales aussi en termes d'attaque de l'État qui est attaqué. Donc voilà, on est sur plusieurs niveaux aussi comme ça d'espace et de temps. Et peut-être après le reste, on va dire après la lecture pour pas trop en dire avant, ouais. Peut-être après. Voilà.
Alors, tu commences à ça. Je commence directement par le chapitre 2 parce que je sais pas.
Parce que le chapitre 1, c'est un petit...
c'est un petit... Pour vous la découvrir si jamais ça vous...
Voilà, si ça vous... Ça.
Si je parle pas très fort d'ailleurs, je vais pas hésiter à me dire. Ce n'est ni le rêve, ni la rage de le voir s'effriter qui m'ont précipité dans la fosse aux utopies. J'en avais simplement assez du strictement possible, du raisonnable, des idées réalistes, de la gloire que je n'ai jamais arrachée mais qui me fut collée par la tyrannie de la génétique et de l'histoire. Je voulais simplement respirer la pluie et sentir son coït avec l'engrais, sans que l'on ne vienne m'expliquer que ce miracle appartenait à d'autres, que ma jouissance était coupable de trop d'amour impur envers une parcelle de la terre, alors qu'il fallait l'adorer dans son entièreté indivisible. Je voulais me pendre à un poème, laisser ma langue s'entortiller dans une chanson, déguster la bave blanche d'un figuier que personne d'autre ne pouvait comprendre, dormir sur la tombe de mon frère et l'y écouter gémir le plaisir de se liquéfier dans la terre. Et puis un matin, je me réveillais avec la puanteur naissante d'avril.
Pendant 20 ans, il m'avait laissé boire, sans trop comprendre, l'amour vicieux de cette terre qui finalement lui appartenait. Ma vieille voisine défonçait la porte avec son poing décharné en criant « Réveille-toi, ils sont en train de nous tuer !» J'ai mis quelques secondes à m'interroger sur mon degré d'implication dans ce « nous » qui était en train de se faire tuer. Mais aussitôt, je me retrouvais hors du lit, piqué par je ne sais quel dard de rappel, cherchant mon gouvernail, le trouvant au bord de la cuvette des toilettes, l'image de cette femme aux yeux incolores me toisant comme un youyou de mère guerrière. Je fonçais dans la rue avec le cri planté dans l'épiderme, sans que je ne sache encore qui était en train de nous tuer et qui était ce « nous ». Dehors, je nous ai vus pour la première fois. Et j'ai compris cet acharnement à m'interdire de sentir l'étreinte de la pluie et de l'engrais, de me pendre à un poème, de me faire mordre par une chanson, de m'enivrer sous un figuier, de m'oublier sur les ossements d'un frère qu'il n'avait pas fini d'assassiner. Revenus achever la besogne, ils ont pleuré plus que moi, plus que nous. Cuirassés, bétonnés, armés jusqu'aux cils, ils paniquent. Et de terreur, ils deviennent verts de rage, rouges de barbarie, blancs de rancœur. Et ils chargent, et plus meurtrières que leurs balles, leur haine crachoteuse comme un transistor grésillant après 20 ans de sommeil, pervers dans son bonheur de revenir à la vie, de pouvoir enfin postillonner cette parole restée longtemps en sourdine. Et la parole, ce sont les balles qui la déclament dans un death metal endiablé. Je suis sortie au moment où ils essayaient de traîner un cadavre trop lourd. Ce petit garçon, à peine remis de son premier émoi spermatique, avait l'air de dormir. Le poids de son sommeil, la beauté de son visage à mi-chemin entre le hurlement et le sourire, cette blancheur lâchée par ses lèvres et gagnant ses yeux, son dernier mot qu'il n'a pu prononcer, un gémissement de regret ou de martyr, une salve de crachat ou de supplication, le refus enragé d'une mort aussi absurde ou la jouissance d'être tombé pour une idée et non par fatalité biologique. Lorsque j'ai vu la procession indécemment longue, si liturgique dans son acharnement sur la dépouille, lorsque je suis enfin arrivée au lieu où le cadavre devait être jeté, une décharge parmi d'autres, lorsque j'ai examiné ensuite son corps et que j'y ai trouvé les insultes du sol et les traces des sécrétions et des rires soldatesques plantés dans cet étau, j'ai oublié ma première question sur mon appartenance au « nous » et j'ai foncé dans la rue, seulement habité par les griffures du bitume sur un homme déjà mort, seulement fasciné, oui, par l'envie de saccager un macabé, alors que les vivants étaient encore derrière, allumés et prêts à disséminer la flamme volée dans tout le pays. J'ai vu, dans cette traînée de chair et de sang, ce que la métaphore a médiocrement habillé. Leur haine est absurde, mécanique, stupide. La mienne le sera aussi. Pour que mes sensations sous la pluie parfumant l'engrais puissent exister sans attester de leur pureté, pour que je puisse me masturber en me pendant à un couplet subversif, je dois haïr tous ceux qui pissent sur mon poème, parce que je sais enfin que parmi toutes les vengeances, celle de la poésie vaut une vie. La poésie est une plante omnivore qui ne se satisfait que du sang, et c'est en cela qu'elle ressemble le mieux à la terre. Corps vorace et limpide, créature horrifiante, refusant la distinction entre la beauté et la laideur. Yeux lyriques s'interrogeant sur les raisons du désamour. Mains rugueuses s'étonnant de l'irrecevabilité de leurs caresses. Narines vicieuses cherchant dans les détritus un parfum ancien. Vagin et phallus errant dans ces murs décrépits qui devraient leur donner une crampe illicite. Tout germe, jubile, agonise et meurt dans la gorge d'un poème. Tout peut ressusciter dans sa rancœur. Tout s'acharne sur son propre corps pour que ne meure plus l'orgasme d'un poème. Et parce que personne ne comprend l'essence strictement lyrique de l'insurrection, la nôtre, celle s'élançant du pus de la blessure, celle s'écartelant au bourrasque des figuiers, parce que tout est inaccessible pour le moment, que tous s'acharnent contre moi, contre toi, que je ne connais pas, que j'ai entrevu le temps d'une balle, que j'ai aimé un instant, que j'ai détesté ensuite, que j'ai adoré vers la fin. Mais la fin de quoi ? Dis-moi, Louisa, quel achèvement vous les noms traqués ? Crois-tu vraiment que c'est ton sang qui dicte le bouillonnement ? Je ne sais pas. Il faudra d'abord que tu me dises ce qu'est mon sang. En quoi es-tu différent des autres, ceux-là qui ne se soulèvent pas ? En quoi trouvent-ils les raisons de ne pas se soulever ? C'est en cela que moi, nous autres brûlés, extasiés, ivres, sommes différents de vous, de la sagesse, de la constance, de l'attente, de cet espoir désespérément long à perler d'une goutte de sperme annonciatrice de jouissance. Tu comprends ? Ce n'est pas une histoire de sang, ni de culture, ni de martyr fatalement assigné à une parcelle de terre. C'est cette fulgurance mordante et libidinale qui naît dans un chant, qui jubile dans un cul, qui gicle d'une voix. Il se trouve que nous avons eu cette voix, nous et cette langue assassine et prostituée, cette voix qui a griffé toutes les consciences et toutes les musiques, qui a dégainé la strophe avant l'arme et qui a fini par lâcher l'arme avant la strophe. Louisa scintille dans mes visions comme une conscience malveillante, un esprit lucide qui m'effraie car tous ses dédains sont les miens. Son regard narquois jeté sur la purulence de la blessure est le mien. Son sourire de pute collé à la dépouille future de nos massacres est aussi le mien. Et pourtant, ces paroles ont à peine le temps de franchir la peau de mes lassitudes que j'esquisse déjà une réponse dans laquelle je dis qu'il ne faut jamais répondre de rien, pas même de ce frisson, cette raclure dans la mélodie, cette difficulté à délivrer la dernière note. Je ne saurais lui dire combien tout est lié à la musique, pas forcément celle du mitraillé, car lui, intact et sublime, a tout préparé pour que la psalmodie de l'insoumission ne dépende pas de lui, ni de ses glorieux aïeuls, ses ratés lumineux, ses inconsolables débris, ni des déjections idéologiques qui s'accrochent à un refrain pour y trouver une bouche de respiration. Cela ne dépend pas de lui, cela ne dépend de rien, et c'est bien cela qui les effraie. Et c'est bien cela qui va me reconduire à la cellule froide du commissariat. Surtout, n'oubliez rien. N'oubliez pas l'odeur du sable enfumé exhumant les restes de vos idées, la noirceur hermétique des cadavres, l'insensé de la mort. Je sais que tout cela n'est pas une farce du destin, n'est pas la fatalité d'un dieu belliqueux, n'est pas un refrain qui s'évapore avec nos derniers pas. Nous avons lancé des pierres, ils nous ont craché des balles. Nous avons dit ce mot infâme de la liberté. Ils se sont tus et nous ont parlé avec des alchimies toxiques, giclées sur les peaux. Nous avons déclamé leur chant pour leur montrer qu'ils dissonnent. Ils ont entravé la mélodie du contentement naissant et impossible. Et ils ont mal compris l'impossibilité du bonheur, celle-là même qui devait chuchoter l'extase de le rechercher et de ne jamais le trouver. Ils ont crié et tué pour un lieu que personne ne connaît et dont on ne retient que quelques infimes fibres sentimentales héritées des grands-pères. Cette globalité mythique qu'ils célèbrent tous, perchée sur des idées glorieuses, accrochée au fantasme de leur propre immunité contre la géologie, refusant la danse des plaques fracturées par tant de piétinements. Je suis un stéréotype vivant, chèche qui mange le visage, longue robe bleue et mains bicolores, regard qui semble demander des comptes au ciel et langage réduit et têté peut-être, comme si les mots s'essoufflaient et mouraient à l'orée du sens. Si j'étais née au milieu du béton et de la merde, j'aurais probablement entendu un autre chant que l'appel à la désobéissance. Mais les hasards de Dieu m'ont mis là, au cœur d'une beauté sans nom, m'ont noyé dans une lumière assourdissante et m'ont jeté au regard ce bleu indécent du ciel et ces invincibles tempêtes solaires. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous coller des acquaintances avec des forces occultes, nous diaboliser aux yeux des rares cerveaux digestifs qui avalent encore leurs paroles avariées, nous ghettoiser dans leurs cartes postales et leurs féeries fantasmées, vous finirez inéluctablement par comprendre de quoi nous sommes pétris et dans quelle substance vous vous liquéfierez avec nous lorsque vos slogans et vos frêles certitudes auront plié bagage vers une autre contrée où ils auront la légitimité de l'avenir. Je me souviens que je fus assommée d'abord par le soleil, par les coups de matraque ensuite. Pourtant, je ne faisais rien d'autre que marcher, faire une espèce de lecture aveugle sur ce sol où les mots de mes ancêtres reposaient en inquiétude. Mais marcher, cela leur rappelle trop le nomade, un être dangereux par sa simple promptitude au voyage et son coupable goût pour le déracinement. Ils avaient besoin de nous, plantés comme nos palmiers stériles, paresseux et silencieux, clochards exotiques et idées bêtes, comme les pattes d'une chamelle téléguidée. Ils m'ont vu marcher, puis m'évanouir sous la chaleur rouge de ce mois d'avril. En tombant, j'ai dû laisser échapper un tract télé qui a atterri sur la gueule de l'un d'entre eux. Et il a lu. Des mots nus, mal écrits, crachés dans la hâte d'expectorer cette eau noire qui nous mangeait le cœur. Des heures plus tard, je me trouvais dans une caserne comme ils savent si bien en faire chez nous. Un cube en parpaing, compartimenté en trous, où torturés et bourreaux partagent la même misère. Seule la saleté criante le distinguait d'un cimetière. Ravissement et douleur me tordaient les muscles. Mon fils attendait quelque part parmi les pierres panses. Ma femme avait fini de tricoter un linceul sur mesure, et ma ville, réveillée, belle dans son outrance, commençait à battre ses murs. mais dans la caserne, placée juste à côté d'un forage de gaz toxique, on me disait que tous les miens étaient morts et qu'au nord, le même sort dévorait des amis. Jamais rencontrés, mais tellement sentis. Ils me faisaient boire l'eau contaminée des puits. Coulait dans ma gorge la poudre d'or que cette terre, cette pute leur avait aussi donnée. Ils coinçaient ma tête entre deux rochers et me laissaient frire au soleil. Aucune question, aucun renseignement attiré, rien que de la volupté. Un orgasme rageur à la vue de mon corps laminé et du fabuleux spectacle de mon souffle têtu refusant de quitter ma carcasse. Le lendemain, j'étais dans un avion militaire qui volait tellement bas que je plongeais presque mes pieds dans le sable. Ou était-ce une hallucination, l'ivresse de la torture, ces toxines qui se libèrent lorsqu'un seuil impossible de douleur est franchi et qui vont nager dans une zone du cerveau où le rêve est permis? Peu importe. Je ressentais une agréable léthargie, comme une mousse chaude qui submergeait mes membres et m'emmenait vers la magie d'un lendemain. Je ne savais pas où il m'envoyait, sans doute dans un centre de torture plus performant. Une vapeur jaune ou un oiseau à six ailes, je ne sais plus, m'a brutalement éjecté de l'appareil et me voilà de nouveau chez moi. Ma mère, assise en tailleur dans la cour intérieure, commençait à peine à gronder ma femme au sujet d'un foutu repas mal préparé que je lui demandais de sortir. C'était là, je me souviens, mon premier sursaut. Et après avoir remis en cause l'autorité sacrée de ma génitrice, le reste était un jeu d'enfant. Refuser le règne des autres, qui plus est inconnu, moche sûrement, incolore, insipide, assassin. Ma mère n'a pas survécu au choc inédit dans la tribu, dans la région. Elle s'en alla quelques semaines plus tard préparer sa vengeance de feu chez le bon Dieu qui, paraît-il, avait mis le paradis sous ses pieds, probablement pour mieux nous faire rentrer. J'ai déjoué l'hégémonie absolue et il me restait à faire mourir quelques autres. Ces monarques qui n'ont même pas la légitimité atavique de ma mère et qui, agglutinés à leur château du Nord, comme des scarabées à une roche fossile, s'amusent de temps à autre à nous envoyer leurs serpents, histoire de sucer ce qui reste du sang de la terre, quitte à empoisonner nos eaux, stériliser nos femmes, ou bien les tuer à l'accouchement. La mienne échappa de justesse à la loi infaillible des services de maternité, mortalité dirais-je. Son corps robuste comme les ruines souterraines s'est battu durant 3 jours contre l'insouciance et le mépris des médecins et des maroquiniers du matériel médical. Il s'est surtout battu contre l'appel de l'au-delà qui arborait une autre image que celle de nos infinités désertiques. L'image que le chir de son école d'alphabétisation lui miroitait à travers le livre. Jardin à perte de vue, rivière et fleuve intarissables, et l'ennui d'une éternité paisible. Ce fut sans doute cette absurde routine sans péripéties, sans soleil brûlant, sans chèvre à traire, sans fogara à sonder, sans amour torride sous les étoiles, sans rareté et sans soif qui la décida à revenir parmi nous. Retrouver une sombre infirmière psalmodiant des prières sous son voile pour se protéger contre cette femme qui a dû avoir le diable à ses côtés pour échapper à une mort écrite. Écrite pour nous, uniquement pour nous. Mon fils est né au milieu de la poussière et d'une vieille chanson que je fredonnais à l'oreille de sa mère, divine et plus que jamais aimée pour sa simple survivance. Puis, il mourut quelques semaines plus tard dans la même poussière qui ne chantait plus. On me dit que cela aussi était écrit, qu'un bébé crève parce qu'il n'a pas reçu les soins néonataux nécessaires, c'était Dieu qui le voulait, et je devais redoubler de piété pour le remercier de cette épreuve, car rappelle-toi, il n'éprouve que les élus parmi ses fidèles. Depuis, ma femme ne fait plus qu'aligner les linceuls et réciter ce même requiem lancinant qui n'a pas de parole, seulement des claquements de langue, des plaintes et des ronronnements. J'aimerais dire que c'est cette mort de trop qui m'a poussée dans les rangs du GAS, les groupes armés du Sahara. Mais il m'a fallu encore des années pour comprendre la nécessité de la violence. Moi, le nomade sédentarisé de force qui continue à déblatérer sur la paix, testament de nos ancêtres, légué avec un extraordinaire contentement et une tenace aptitude à la misère. Sous la torture, je leur raconterai tout cela, et bien davantage. Ou alors je me tairai par lassitude ou par haine. Je me faufilerai entre les tombes, creuserai un tunnel sous leur terre bétonnée et m'en irai vers la mer que je n'ai jamais vue. Là, je trouverai quelques renégats de mon espèce. Ils m'aideront à reconstituer le réseau et à rétablir la connexion avec les camarades cachés dans l'absolu de Tazenroth. Nous allons ensuite chercher cette masse informe et excédée qui attend un minuscule signe pour se transformer en armée rebelle et juste. Le réacteur de l'avion ne fait plus de bruit. Je n'ai même pas senti l'atterrissage.
C'est un petit extrait, mais on peut en parler un peu ou continuer de lire en fonction de ce que, ce que vous avez envie d'entendre, mais ce qu'on se disait qui pourrait peut-être être intéressant d'évoquer, c'est quand même effectivement cet ancrage du roman dans malgré tout dans son contexte. Pour Sarah, c'est très important la dimension apatrie du roman. C'est quelque chose qui l'a un des moteurs, c'était cette de ne pas donner d'informations de lieux trop précises, même si on entend le mot Sarah, on entend la mer, on entend les montagnes, mais de ne pas donner ni de lieu, ni de date, et de faire résonner cet environnement pour n'importe qui, n'importe où, qu'on puisse l'entendre, le comprendre avec les outils qu'on a ou qu'on n'a pas, en fait. C'est pas un cadre qui est imposé. Et
il n'y a pas de prérequis, en fait.
Voilà, il n'y avait pas de prérequis à la compréhension. Pour autant, il est paru en Algérie, donc c'est sûr que... Il est quand même paru dans un contexte où beaucoup de ses lecteurs et ses lectrices, à ce moment-là, avaient quand même des choses qui pouvaient résonner assez clairement. Et on trouvait intéressant peut-être de redire un petit peu en fait, quel était ce contexte-là. Donc en fait, Sarah, est écrivaine journaliste, aussi très engagée, anarchiste, et qui défend et qui lutte... Pour l'autonomie, si ce n'est l'indépendance des régions comme la Kabylie, et d'une manière générale pour les peuples imazirènes, pour les peuples qui ont été très frontalement touchés par l'uniformisation dont on voulait parler un petit peu de ce qui se passe en Algérie.
Peut-être en amont, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est commun ou pas, mais avant la colonisation française, donc le Maghreb était une région sans les frontières ont été dessinées par la colonie française. Et en fait, tous les peuples qui habitaient le Maghreb, qu'on appelait Frikia, étaient des imazirènes, qui veut dire peuple libre au pluriel, et ils se définissaient comme tels. C'est une auto-définition. Et du coup, effectivement, peut-être juste pour saisir on dit que peut-être certaines personnes entendent indépendance de la Kabylie sans forcément comprendre l'enjeu. Juste après l'indépendance, dans les années 60, peut-être...
Dans les années 60, il y a une ce que Sarah dit d'une espèce de contradiction un petit peu particulière de la décolonisation qu'elle dit l'héritage du jacobinisme à la française, où on a voulu construire un pays unifié, le mythe de l'unité nationale, et donc construire une Algérie qui ne faisait qu'un, qui ne faisait qu'une, et donc qui du coup donc bien sûr avec une campagne d'arabisation très très forte, et donc du coup bien sûr par opposition à la langue française qui
était perçue comme une langue coloniale,
mais ce qui a eu aussi eu des conséquences assez lourdes pour certaines intellectuels, entre autres, mais pas que, qui enseignaient par exemple le français,
Assia Djebar parlait français, enseignait en français, et en fait elle a quitté l'Algérie parce que c'était mal perçu par le gouvernement en place, qui est le FLN, qui a milité d'une manière assez particulière aussi pour l'indépendance de l'Algérie, mais bon. Il y a énormément de personnes qui se sont vues dans l'inconfort du fait de leur langue, du fait de leurs habitudes aussi sociales pour les imazirènes, de toutes leurs habitudes culturelles aussi, des traditions. Les langues imazirènes ont été considérées comme des dialectes, en fait, jusqu'à récemment, n'étaient pas reconnues comme des langues officielles. Et voilà, cette campagne d'arabisation très très forte qui a
effacé, en fait, qui a mené à des répressions très très dures, du coup, des luttes des peuples imazirènes. Donc par exemple les révoltes entre autres Kabyles, mais pas que, hein, mais ça est assez proche de ces milieux-là et de la Kabylie, des mouvements Kabyles, donc qui ont été réprimés très durement par le pouvoir central, et avec des révoltes à plusieurs moments. Et en fait, l'une des anecdotes, l'une de ces ressorts narratifs, mais ça n'a pas orienté tout le livre, mais l'un des ressorts, c'est le... Non, il n'y a pas de souci. C'est le... En fait, c'est qu'elle avait identifié une espèce de cyclicité des révoltes en disant, il y en a une dans les années 60, une dans les années 80, une en 2001. Et Et ben du coup, il devrait y en avoir une autour de 2020. Voilà. Donc son roman, elle voulait en faire un roman d'anticipation de cette révolte-là, de cette, de ce soulèvement anarchiste imazirène, enfin amazir. Et donc du coup, voilà, c'est un peu un clin d'œil elle qu'elle avait. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus lui redemander maintenant. Alors. Le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, forcément, voilà, le bouquin est paru en 2016, donc c'était quand même quelques années avant, voilà. Et donc, voilà, bon, alors elle est assez claire sur le lien qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, du coup, avec ce qu'elle écrit, parce que, bon, déjà, ça n'a rien d'une prophétie, enfin, c'est
anecdotique, voilà. C'est un processus d'écriture, mais ça reste anecdotique, quoi.
Oui, enfin, voilà, c'est... Mais, c'est puis surtout qu'elle elle le dit assez clairement que son travail de journaliste c'est son rapport au réel, mais la littérature c'est autre chose. C'est voilà, c'est pour elle, c'est justement la négation du réel, c'est aussi une réalité qui n'est pas, voilà, elle ne cherche pas à aller chercher la réalité, donner des noms de lieux, enfin des, voilà.
Et donc pour elle c'est un espace d'exercice de liberté.
Oui, comme pour beaucoup, hein, mais voilà. Et donc, elle a dit quelque chose récemment par rapport à ce lien entre éventuellement ce qui se passe en Algérie en ce moment et son bouquin, et que je, enfin, qu'on trouve assez intéressant parce que voilà, ça dit aussi assez vite son avis. Je pourrais vous le lire assez rapidement. Donc sur ce lien, elle dit: je ne suis pas très sûre de la corrélation entre ce qui se passe en Algérie et la morsure du coquelicot, où il s'agit d'une révolution anarchiste qui inspire à l'instauration d'une société véritablement égalitaire et débarrassée de la malédiction du pouvoir, pour citer Louise Michel. Au fil des vendredis et des discussions avec des amis fébriéristes, j'ai l'impression que nous vivons une sorte de préhistoire dans la quête de la liberté. Les revendications sont centrées sur le départ du système et de ses figures, sur l'alternance au pouvoir et sur l'instauration d'un état de droit avec un président démocratiquement élu, intègre et patriote. En somme, une parodie de démocratie qui tient plus du mimétisme envers l'Occident, pour les uns, et du mythe d'une république parfaite guidée par un messie pour les autres. Or, un peu partout dans le monde, les populations semblent prendre conscience de l'inanité de la fourberie d'un tel modèle et exigent aujourd'hui, si ce n'est l'abolition de la démocratie verticale, du moins une réelle réappropriation du pouvoir de décision et une véritable justice sociale. Par ailleurs, ce qui me fait un petit peu peur dans ce mouvement, c'est la fausse image quasiment obligatoire qu'il veut véhiculer, celle d'une parfaite cohésion, d'un peuple uni comme un seul homme et autres poncifs dangereusement exclusivistes qui peuvent nous donner un aperçu peu rassurant sur la suite. Bon, ça c'est, voilà, c'est la vie qu'elle a sur... Elle est elle-même très investie et engagée dans ce mouvement-là, hein, mais voilà, c'est la vie qu'elle donnait sur le lien que certains faisaient entre son roman et ce qui se passe. Ce que moi je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est qu'aussi elle rappelle, encore une fois, quelque chose qui semble toujours là... la prendre assez à cœur, c'est voilà, ce mythe de l'unité, y compris dans un mouvement comme celui-ci, un mouvement populaire qu'elle identifie comme se dessinant une espèce d'unité de lutte qui forcément à laquelle forcément elle n'adhère pas.
Et ça, c'est ses convictions pour le coup très anarchistes qui de toute façon...
Oui, voilà, oui, après c'est aussi son engagement politique qui son engagement en tant que personne et dans ses convictions qui en parle. Après, nous, ce qu'on trouvait quand même intéressant, c'est qu'il y a quand même une remise en cause du système qui est importante et qui va peut-être un peu plus loin que l'alternance démocratique, que vive encore ce qui vient de passer ces derniers jours et l'annulation des élections qui était en fait à la demande des manifestants et des manifestantes. Donc voilà, après encore une fois, ça n'a rien d'une prophétie, ça n'a rien de... Ce n'est pas un éclairage sur ce qui est en train de se passer, mais voilà, il y avait des résonances qui semblaient parler à certaines, ouais. Et voilà, donc... mais bon, donc c'est avant tout une lutte qui s'inscrit quand même dans un mouvement... d'indépendance et d'autonomie régionale au sens, bon, pas région avec des frontières, mais régionale, voilà, des airs, des endroits. Et donc le roman est habité par aussi ces références-là. On a des citations, des chants en amazigh, Matou Blounès qui est cité, tout un cadre de référence qui va venir un petit peu éclairer cette révolte-là. Et du coup aussi la répression très, très violente qu'elle affronte. Et donc voilà, c'était pour aussi donner ce petit ancrage-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle décide volontairement de pas éclaircir plus que ça, mais en même temps qu'on qu'on trouve aussi intéressant de peut-être rappeler.
Mettre en lumière. Ouais. Après, voilà, par rapport à ce qu'on disait sur l'esthétique de ce roman, en tant qu'éditrice, je trouve ça assez intéressant puisque ça rend. Je ne sais pas si certains d'entre vous, certaines d'entre vous étaient présentes hier. Il y avait une discussion sur la consommation du livre et le marché du livre, comme on dit tristement. Et je trouve que ces esthétiques-là, qui sont politiques, empêchent une consommation du livre. Et ça, c'est limite en tout cas une certaine consommation du livre, parce que le livre reste là, etc. Ça reste une marchandise, c'est vrai. Mais ce rapport à la littérature qui se fait par à coup presque. Pose des questions sur la consommation de la littérature, en tout cas.
Oui, parce que c'est vrai que une des choses que Sarah dit aussi sur son écriture, c'est qu'elle elle cherche pas et elle a pas envie d'écrire des livres, des histoires simplement compréhensibles, claires. Non, elle n'est pas compréhensible, elle dit. Enfin, claire et construite, simplement consommable. Voilà, simplement consommable. C'est pas une histoire de compréhension, c'est plus une histoire de simplement consommable. Enfin, dans sa démarche, il y avait vraiment cette volonté d'aller un petit peu plus au contact, un peu. Et puis.
Perturber les habitudes aussi de lecture, voilà, que certaines peuvent avoir.
Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'elle a écrit 3 livres en arabe et après elle a dit. Je suis en train de m'installer dans quelque chose de confortable, donc je vais changer, je change de langue, je change de processus d'écriture. Et donc là, elle a écrit ces 2 bouquins en français. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas si elle a encore envie de continuer un peu plus, ou si de la même manière, le confort s'est installé aussi, parce que son autre livre est aussi assez. Peut être assez inconfortable aussi. Voilà, nous, on trouvait cette démarche aussi intéressante dans ce que ça pose comme question, effectivement, de. Même dans le texte même, de qu'est-ce qui est consommable, qu'est-ce qui peut s'inscrire dans le champ d'un livre qui va être lu à la manière d'un produit exclusivement consommable dans un cadre capitaliste, auquel qui va pouvoir aller essayer interroger même, malgré la nature de l'objet, qui a un prix et qui se vend dans un réseau, qui est malgré tout bien sûr touché complètement par le capitalisme, mais voilà, qui peut-être qu'il va aller un petit peu sur le côté, qui va aller un petit peu chercher d'autres biais, qui va essayer d'autres manières de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez. Peut-être que certains ou certaines l'ont lu, ou peut-être pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça vous évoque des choses. Enfin, s'il y a des points sur lesquels vous avez envie de réagir ou discuter, vous êtes ouverte, mais. Voilà.
Bon, ben on vous a bien exaspéré.
Non, ça donne envie de lire.
Je
ne l'ai
pas lu, mais c'est pas un moment que j'avais envie de trouver. Je me demandais s'il y avait des passages d'un récit plus collectif. Parce que moi, mon imaginaire de la révolte, c'est un soulèvement qui se fait avec autres.
Ouais.
Et là, dans le parti que vous avez lu, c'est vraiment. On est dans la tête de quelqu'un.
On est au début, effectivement.
Je sais pas si. Ouais, ça fait partie aussi de son écrit ou si c'est. Comme ça qu'elle le prend.
Alors après, c'est une lecture, hein. C'est ma lecture seule, mais. Il me semble que le collectif s'exprime aussi à travers la séparation des voix. Donc là, par exemple, on a lu 2 chapitres et c'est 2 personnes différentes. Donc il y a quelqu'un qui est plutôt en Kabylie, quelqu'un qui est plutôt au Sahara. Et en fait, c'est vraiment de se concentrer sur des paroles un peu éclatées, même si dans certains témoignages de personnages. Dans certains témoignages de personnages, on a aussi un aperçu de groupements qui sont plus collectifs et solidaires. Mais c'est la pluralité de ces voix, en fait. Et des voix parfois contradictoires. Il y a aussi par exemple un garde de prison qui s'exprime, et c'est assez inattendu dans ce cadre-là. Effectivement, on se situe pas seulement du côté des personnes qui font la révolte, la révolution. C'est quelque chose qui est presque planté là, en fait, comme un décor. Elle a lieu de toute manière, et on a vraiment des focales sur des personnages ou sur des groupes.
Mais je pense qu'en fait le collectif aussi est peut-être un peu amené par la polyphonie, en fait, justement ce truc où il va y avoir ce manifestant dans une ville kabyle, ce personnage du Sahara qui s'est engagé dans des groupes armés. En fait, le collectif vient par le. Il n'y aura pas de parole en nous, en fait. Elle donne pas de. Enfin, sauf si peut-être je me trompe, hein, mais il me semble pas qu'elle donne de parole en nous, vraiment en tant que narrateur, vraiment pour. Parler langue, quoi. Après, ils sont toujours un peu là parce que, par exemple, dans le début de ce que tu disais, il y avait cette histoire du
Son rapport au nous.
Son rapport au nous, ouais. Au début, le personnage se dit est-ce que en fait j'en fais partie de nous ? De quoi il s'agit ? Est-ce que ça me concerne même ? Et il y a aussi la question aussi de comment on rejoint en fait ces luttes-là ? Comment on se sent concerné ou pas ? À quel moment en fait il va y avoir ce déclencheur ? Et là, pour le coup, alors c'est peut-être dit avec beaucoup de. Mais en fait, c'est la mort d'un manifestant. C'est le truc qui fait que. À un moment donné, en fait, il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix. Et donc, le collectif, il s'inscrit aussi dans cette solidarité-là qui est aussi face à la répression, qui est obligatoire. Après, ça va, il n'y a pas de nous.
Il n'y a pas de nous en soi, il n'y a pas de personnage nous. Après, c'est intéressant justement sur cette vision qui n'est pas romantique de la chose. Il n'y a pas un groupement qui existe déjà et un personnage qui rejoindrait ce groupement, etc. C'est vraiment éclaté, disparate et. D'ailleurs, en fait, le chapitrage c'est comme ça, mais c'est des voix différentes parfois qui reviennent. On ne sait pas qui parle, même si on finit par comprendre, avoir des pistes. Par exemple, au chapitre 2, c'était Sakai, qu'on retrouvera après. Au chapitre 3, pardon, c'était un personnage qui s'appelle Sakai, qu'on retrouvera après. Et en fait, en plein milieu de la narration, il y a l'irruption de la personne qui écrit, qui n'est plus le chapitrage habituel, mais jour 1 jusqu'au 10e jour, je crois.
Septième
ou dixième, bon, je sais plus. Et en fait, voilà, on a une interruption assez brutale de la narration qui se fait, et c'est la personne qui écrit qui parle pour revenir finalement à la narration. En fait, cette révolution, cette révolte, elle est vraiment, elle est nécessaire et elle a lieu de toute manière. C'est intéressant parce que finalement, le personnage, ça pourrait être cette révolte et cette révolution vue par un certain nombre de personnes qui la rejoignent ou non, qui agissent ou non, qui sont impliquées malgré eux ou avec beaucoup d'envie, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette vision qui n'est pas qui est collective parce qu'elle concerne beaucoup de personnes et tout le monde, mais qui n'est pas voilà, ils sont dans l'urgence aussi, ils n'ont pas le temps de se retrouver, de constituer forcément des groupes arrêtés avec des prises de parole ou de décider des actions. Ils sont constamment dans l'urgence en fait. Après, effectivement, on a quand même des scènes en prison où
il y a des réunions,
ils votent pour. Je sais pas si je vous spoil, mais. Ouais. Ils votent pour savoir s'ils mettent la prison à feu et à sang, ce qu'ils vont faire. Voilà, il y a quand même des passages où il y a quand même.
Mais oui, en fait, il est tout le temps là, mais il est jamais. Jamais clair. Mais il est tout le temps là. Il a le contrôle d'un côté, quoi.
Ça pose aussi la question de qu'est-ce qui nous concerne, en fait, d'une manière générale, et comment est-ce qu'on se sent concerné ou pas, comme tu disais, et comment est-ce qu'on peut s'impliquer ou pas.